Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
On vous en parle depuis hier soir. L'Union africaine a finalement renoncé à déployer des troupes au Burundi. Pourtant, au mois de décembre, rappelez-vous, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA avait décidé d'envoyer sur le terrain 5000 hommes pour protéger la population. L'institution avait même mis en garde le pouvoir burundais en affirmant que l'Afrique ne permettra pas un nouveau génocide sur son sol. En tout cas, face au refus catégorique de Pierre Nkurunziza de voir cette force se déployer dans son pays, eh bien, ce week-end, plusieurs chefs d'État africains ont brandi le principe sacro-saint de la souveraineté nationale. Pas question donc d'envoyer des militaires sans le consentement de Bujumbura. Pas question non plus de créer un précédent. Certains dirigeants craignant certainement que cette mesure puisse un jour se retourner contre l'un d'entre eux. Du coup, eh bien, une délégation de chefs d'État se rendra prochainement à Bujumbura pour tenter de convaincre Pierre Nkurunziza à la fois d'engager un dialogue avec l'opposition, mais aussi d'accepter cette force de l'Union africaine. Alors que pensez-vous de la gestion de la crise burundaise? L'Union africaine est-elle à la hauteur? Nous en parlons, vous êtes nombreux au standard, vous avez suivi, je le vois à travers vos réactions aussi bien sur Facebook qu'au standard, vous avez suivi au plus près ce sommet de l'Union africaine qui s'est tenu donc à Addis Abeba. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Et c'est Théo qui est à Kinshasa qui lance le débat. Bonjour Théo.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous n'êtes pas surpris, vous, par la décision des chefs d'État africains?
Oui, sincèrement, comme vous l'avez dit, je ne suis pas surpris par rapport à cette décision, parce que depuis un certain temps, je sais que l'Union africaine, c'est un conglomérat des amis. Ce sont des amis qui ne peuvent pas accepter à ce que l'un d'entre eux tombe. Ils acceptent à ce que la population soit tuée. Ils acceptent que la population soit entassée, enterrée en masse, sans pour autant qu'ils ne puissent intervenir. Moi, je ne suis pas surpris. Donc, je savais que ça allait finir comme ça. C'est pourquoi, profitant de l'occasion, Juan Gomez...
Mais excusez-moi, Théo, à vous entendre, on dirait que l'Union africaine, finalement, se désintéresse du sort de la population burundaise.
Effectivement, l'Union africaine assiste pacifiquement à la tuerie de la population burundaise. L'Union africaine savait que Nkurunziza allait briguer le troisième mandat. Le peuple, le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple s'est mis debout, a dit non à Nkurunziza. Quelle est l'intervention de l'Union africaine? L'Union africaine n'a rien fait. On tue chaque jour. On tue et on place des armes pour montrer que ce sont des rebelles. Nous connaissons comment ça se passe en Afrique.
Mais, enfin, vous dites que l'Union africaine ne fait rien. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine dit à peu près la même chose que vous. En d'autres termes, il a dit samedi à Addis Abeba, nous nous réunissons trop souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout, a dit Idriss Déby en prenant donc ses fonctions de président en exercice de l'Union africaine, c'est-à-dire que vous avez tous les deux la même analyse. En tout cas, ce matin, je ne sais pas si vous avez écouté l'antenne d'RFI, Théo, au micro de Christophe Boisbouvier, le ministre tchadien des Affaires étrangères a prévenu que si la situation sécuritaire s'aggravait, il ne faudra pas hésiter à déployer une force, c'est-à-dire que malgré tout, voilà, il y a cette épée Damoclès au-dessus des autorités burundaises.
Pas nécessairement, parce que la situation est déjà grave, Juan Gomez. Il y a combien de morts? On vient de découvrir des charniers. Est-ce qu'il faudra encore attendre qu'il y ait plusieurs morts pour que cette épée tombe sur Nkurunziza? Je pense que c'est le moment que l'Union africaine nous montre de quoi il est capable. Certes, le président tchadien qui vient prendre le pouvoir maintenant, il a dit, j'ai suivi, qu'ils agissent au moins, ils parlent trop. Moi, je ne dis pas ça, je dis que c'est une union des amis qui ne vise que les intérêts personnels, qui ne vise que les intérêts de leur famille ou des groupes d'individus et qui ne vont pas accepter à ce que l'un d'entre eux puisse tomber comme ça. Ouais. C'est pourquoi, Juan, laissez-moi l'occasion pour vous dire
rapidement.
Que j'en appelle à l'Organisation des Nations Unies, j'en appelle au peuple burundais de rester fort, J'en appelle à la communauté internationale de ne pas rester passif, voir comment Nkurunziza et son gouvernement tuent la population burundaise.
En tout cas, la communauté internationale n'est pas passive, puisque le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a récemment rédigé un document qui était certes censé rester secret, il a finalement été publié, et dans ce document, on n'exclut pas le risque pour le Burundi de basculer dans la guerre civile, ou pire, dans un génocide, c'est-à-dire que les Nations Unies ont bien conscience de la fragilité de la situation sécuritaire au Burundi. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Théo de nous avoir appelés. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Belgique et vous saluez, vous, la décision de l'Union africaine. Vous dites que c'est une décision cohérente.
Enfin, elle est cohérente parce que justement, la décision qui avait été prise par le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine était une décision absurde qui a été prise dans la précipitation pour faire plaisir à Samantha Power, à Louis Michel, Bernard Benguin, Japas, et qui criait au génocide imaginaire pour tout simplement avoir la tête de Nkurunziza, de son gouvernement et de son parti.
Enfin, génocide imaginaire, certes, pour l'instant, personne ne dit qu'un génocide est en train de se dérouler au Burundi. Ce que dit par exemple Pierre Latsousse, le patron des casques bleus, il dit, voilà, le pays risque de basculer dans un génocide.
Mais tous ces gens, ils balancent des mots pareils sans avoir été à l'intérieur du pays pour voir exactement la situation réelle du Burundi. La fois passée, quand les Nations Unies, donc les représentants des Nations Unies sont partis au Burundi, on a voulu leur montrer que l'intérieur du pays, les 14 provinces du Burundi sont tranquilles, qu'il n'y a pas de problème. Et Samantha Power avait même bien voulu ne pas y aller en voulant rester à Bujumbura, oui, où les opposants faisaient péter les mortiers et tout ça pour montrer que la situation est grave.
Mais lorsque Amnesty International affirme avoir des preuves de l'existence de fosses communes, de charniers, Amnesty International qui a publié des photos prises en novembre et d'autres prises en décembre, et on voit sur ces photos que la terre a été retournée par endroits. Est-ce qu'il n'y a pas lieu tout de même d'aller enquêter et d'aller vérifier clairement sur le terrain ce qui se passe ?
Enquêter, moi je suis d'accord qu'on enquête, mais on accuse déjà et on donne le verdict avant d'avoir enquêté. Le fait de montrer, vous vous souvenez bien des images satellites que Colin Powell montrait au monde entier qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, il n'y en a pas eu lieu. Donc, montrer les photos, c'est une chose, mais condamner la personne sans avoir fait des enquêtes, ni quoi que ce soit, je trouve que c'est des manières de propagande qui fonctionnent pour le moment, mais qui ne vont pas fonctionner longtemps, parce que le Burundi n'est pas ce qu'on présente maintenant.
Le Burundi n'est pas, pardon ?
N'est pas comme on le présente maintenant dans pas les comme médias le... ou autre chose.
Oui, en tout cas, il y a des violences indéniables, des violences qui ont fait plus de 400 morts et contraint à l'exil plus de 200 000 personnes. Ce sont les chiffres de l'ONU qui ne sont même pas remis en cause par les autorités burundaises. Merci Franck de nous avoir appelé de Liège. On reste en Belgique avec Martin qui nous appelle, lui, de Bruxelles. Bonjour Martin.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue,
bonjour.
Nous vous écoutons.
Très bien, mais écoutez, moi... Déjà, par rapport au précédent intervenant, voilà, comme vous venez de le dire, le Burundi est depuis quelques mois en train de sombrer dans quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est de la violence extrême et qui pourrait se transformer dans quelques mois, dans quelques semaines même, en un génocide. Ça, c'est indéniable, ça se voit tous les jours. Tous les matins, on ramasse des gens qui se sont fait tuer, massacrer, en représailles de leur position contre le troisième mandat, parce qu'il faut le nommer, effectivement, le problème de base ici, c'est ce troisième mandat, oui, inconstitutionnel. En ce qui concerne maintenant le retournement de situation de ce week-end, c'est-à-dire que l'Union africaine qui renonce à envoyer de force des troupes au Burundi, c'était prévisible. Je pense que la précédente décision qui a été prise un petit peu dans la précipitation, sans avoir préparé le terrain
Voilà, la précédente décision, c'est-à-dire celle de dire nous allons envoyer une force de 5000 hommes pour protéger la population, cette décision a été prise par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ensuite, évidemment, il faut le feu vert des chefs d'État africains. C'est à eux de voter. Ils ont ce pouvoir de dire oui, malgré le refus catégorique de Pierre Nkurunziza, nous pouvons et nous voulons déployer une force de stabilisation. C'est l'article 4H de mémoire de la charte de l'Union africaine. Donc ils ont ce pouvoir-là de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, à votre avis, Martin ?
Ils ne l'ont pas fait parce que, je venais de le dire, parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain. Le terrain n'a pas été préparé du point de vue diplomatique et des pressions pour que le gouvernement burundais n'oppose pas tous ces arguments.
Mais quand vous dites que le travail n'a pas été fait, le précédent auditeur faisait référence au déplacement de tous les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU à Bujumbura, c'était il y a à peine 10 jours. Voilà, ça c'est de la diplomatie. L'Europe qui menace de sanctionner le Burundi sur un plan financier, ça ce sont également des menaces de sanctions. Vous voyez, donc la communauté internationale se mobilise malgré tout, elle n'est pas spectatrice.
Maintenant, la délégation qui est arrivée au Burundi il y a quelques jours de l'ONU est venue un petit peu à contre-courant des conclusions un petit peu à contre-courant de ce qu'on attendait, c'est-à-dire de dire voilà, il n'y a pas lieu peut-être d'intervenir fortement au Burundi parce que il n'y a pas de génocide imminent, etc. Et ça fait que la Maprobu était un peu un grand coup d'épée dans l'eau.
Oui, la Maprobu étant donc cette force de stabilisation africaine, et c'est vrai que Pierre Nkurunziza, lorsqu'il a rencontré les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies, il leur a dit le pays est en sécurité à 99% et il n'y a pas de génocide en cours dans mon pays. Merci de nous avoir appelé, Martin. Merci d'écouter RFI sur Internet à Bruxelles, RFI.fr. Henri, bonjour, vous êtes à Kinshasa.
Allô, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute sur l'attitude de la communauté internationale et surtout de l'Union africaine dans la gestion de la crise burundaise.
Bon, moi je vais dire que c'est une honte que l'Union africaine nous fait. C'est vrai que mes prédécesseurs ont dit que c'était prévisible cette décision, mais moi je me disais qu'ils vont faire un sursaut de panafricanisme pour prendre une décision salutaire en faveur du Burundi. Parce que là, ils nous ont prouvé que, effectivement, comme mon prédécesseur l'a dit, que c'est un conglomérat des aventuriers. Donc ça veut dire qu'ils protègent le fauteuil de leurs camarades, puisque chez eux également, ce qui se passe au Burundi peut se passer et que les autres présidents les protégeraient. Alors moi je dis qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités pour pouvoir envoyer les casques bleus dans cette nation. Parce qu'il y a le risque de la déstabilisation dans la sous-région. Nous, déjà, par exemple, ici au Congo, nous souffrons déjà de beaucoup de rébellions. Il ne faudra pas nous en ajouter encore une autre. Donc, il faut tenir compte de ces aspects-là. Oui, la mobilisation de la communauté internationale, c'est bien bon, mais entre-temps, pendant cette mobilisation, il y a des gens qui meurent. Cette mobilisation n'a pas arrêté les morts et les tueries au Burundi. Donc il faut qu'il y ait un sursaut de panafricanisme de la part des chefs d'État africains et aussi la prise de responsabilité par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, pour pouvoir déployer les casques bleus au Burundi pour surveiller et protéger les populations civiles qu'on tue tous les jours à cause d'un mandat qui n'avait pas été autorisé à prendre par ce monsieur Nkurunziza.
En tout cas, juste un mot. Vous dites, vous êtes là en train d'imaginer le pire des scénarios. Le porte-parole du CNARED, qui est la principale coalition de l'opposition, disait, juste avant le coup d'envoi du sommet de l'Union africaine, si les chefs d'État africains ne prennent pas des mesures drastiques contre la dictature de Nkurunziza, s'ils ne décident pas d'envoyer donc cette force de stabilisation de l'Union africaine pour soutenir et protéger le peuple burundais, les Burundais se sentiront qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils décideront de s'auto-défendre. Ça signifie quoi ? Ça signifie, quand on lit entre les lignes, que une partie de la population prendra les armes et on verra émerger plusieurs mouvements rebelles.
Bon, Juan, moi ce que je peux dire c'est ceci. Si les chefs d'État africains ne peuvent rien faire, si la communauté internationale ne peut rien faire, que les Burundais qui nous suivent en ce moment se prennent en charge comme les Burkinabés l'ont fait. Parce qu'on a vu le Burkina Faso changer le cours de l'histoire sans armes à main nue. dont ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir arrêter cette hégémonie et ce processus génocidaire qui est en cours dans leur pays. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que aujourd'hui, on a vu que ces chefs de l'État-là ne se sont pas mis du côté de la population, mais ils se sont mis du côté d'un violeur de constitution.
On va donner la parole, je vous interromps Henri, on va donner la parole à Abdallah qui nous appelle du Burundi, justement. Vous êtes quelques-uns à nous appeler du Burundi, mais les réseaux téléphones sont tellement mauvais qu'on ne peut pas vous passer à l'antenne. Abdallah, vous êtes à 70 km au sud de Bujumbura, bonjour.
Bonjour Juan et mes interminables et salutations à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Eh bien merci de nous écouter. Comment réagissez-vous à la décision des chefs d'État africains ?
Ben écoutez Juan, moi j'ai sali la réaction des chefs d'État africains. Parce que d'après moi, la force ne résoudra jamais cette crise qui traverse mon pays. Et si on me parlait d'une force étrangère qui a déjà amené la paix dans un pays, je vous dirais qu'il y a plus de 15 ans, voire 20 ans, que la MONUSCO, jadis MONUC, est en ère des Congo, mais la République démocratique du Congo n'a jamais connu la guerre, même à l'ère où je vous parle. Cette force africaine qui devrait être déployée au Burundi devrait venir faire quoi dans un pays souverain comme le Burundi ?
L'objectif, excusez-moi Abdallah, l'objectif de cette force africaine est de désarmer les milices, de protéger les civils en coopération avec la police burundaise, de faciliter le travail des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de récupérer toutes les armes qui circulent à travers votre pays. Donc voilà la mission sur le papier de cette force africaine.
Et la force interne, la force de défense nationale du Burundi, où serait sa place? Non mais écoutez, nous voulons qu'on nous respecte à un moment donné, écoutez. Moi je suis et je reste persuadé que l'unique et la seule solution qui sortira mon pays dans cette impasse, c'est le dialogue. C'est le dialogue, Juan. Heureusement, le dialogue a déjà commencé à l'intérieur du pays, notamment dans la province de Gitega, et bientôt je reste persuadé que ça arrivera jusqu'à dans ma province natale de Rumonge.
Oui.
Je
demanderai Abdallah, excusez-moi de vous contredire, le dialogue qui a commencé au Burundi n'est pas un dialogue inclusif. On sait bien que pour l'instant, ne participent pas à ce dialogue tous ceux qui sont les plus farouches opposants au président Pierre Nkurunziza, tous ceux qui se sont mis vent debout au mois d'avril pour s'opposer à son troisième mandat, puisque toute cette partie de l'opposition vit en exil à l'étranger.
Les dialogues continuent, mon frère. Les dialogues continuent. On commence par ici et on va aller jusqu'à à l'extérieur du pays pour dialoguer, mon frère. Je demanderai ceci au chef d'État de l'Union africaine, d'accompagner le gouvernement burundais et l'opposition burundaise aux tables des négociations et surtout prendre au sérieux l'ingérence du Rwanda dans cette crise burundaise, Juan.
Alors vous êtes nombreux, effectivement, à dire, mais regardez ce que font les autorités rwandaises dans ce processus de déstabilisation du Burundi. Ce sont des propos qui reviennent souvent sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps ce matin de lire quelques-unes de vos réactions, mais ne vous inquiétez pas, on les lit. Et puis surtout, ce qui est intéressant grâce à la page Facebook, c'est que vous débattez instantanément, en direct, entre vous, sur les réseaux sociaux. Abdallah, merci de nous avoir appelés. Ben, vous nous appelez d'Abidjan. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute sur la crise burundaise.
D'accord. Pour ma part, je dis que l'Union africaine a pris une décision salutaire. Oui, une décision salutaire en ce sens que on peut imposer une force africaine à un pays souverain. Vous voyez ? Allô ?
Oui, je vous écoute. Et pourquoi ?
Oui, parce que la décision d'envoyer une force émane du pays. Du responsable de ce pays. Et s'il y a des forces qui sont opposées à ce monsieur pour qu'il quitte le pouvoir, je crois que l'intervention de l'Union africaine doit se pencher à concilier, à mener ces gens-là à avoir une position de dialogue avec le gouvernement en place.
Oui, mais cette position de dialogue, pour l'instant, on voit bien, ne marche pas. Vous dites les pays africains sont souverains, certes, mais en cas de crime de guerre, en cas de crime contre l'humanité, que faut-il faire ? Il faut rester spectateur ?
Oui, mais c'est là qu'il faut envoyer des médiateurs. C'est là qu'il faut envoyer des médiateurs et non une force africaine. Lorsque nous avons constaté dans certains pays en Afrique et qu'on a d'abord commencé par envoyer des forces, cela a causé de la déstabilisation. Et non pas pour aller... On nous dit que c'est pour aller protéger la population. Ça, c'est le discours d'entrée.
Ouais. Donc vous craignez que la situation se dégrade davantage si cette force africaine se déploie sur le territoire burundais. Le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans les prochains jours. Demain, nous parlerons de la Centrafrique et du processus électoral après la décision, et bien tout simplement d'annuler les résultats du